périscolaire. Est-ce que tu as quelque chose à me dire? Est-ce que tu as été seule avec un adulte? Est-ce qu'un adulte t'a demandé quelque chose qui te paraissait différent d'habitude? C'est plus des questions comme ça.
Bonjour à toutes et à tous, quel régal de vous retrouver pour un nouveau numéro de Zoom Zoom Zen chaque après-midi. 2 heures pour mieux comprendre son époque à travers ses mots, ses expressions. Aujourd'hui, une expression qui concerne tous les parents d'enfants scolarisés. On va zoomer sur la notion très débattue en ce moment de périscolaire. Donne-moi ta main et prends la mienne, chantait Cyril Lagaère, notre rédacteur en chef, lorsque, au début des années 80, alors qu'il redoublait son CP pour la deuxième fois, il essayait chaque jour à 16h30 d'entraîner Corinne Chouniard dans l'entrepôt désaffecté qui jouxtait l'école élémentaire de Pontecorvo pour, je le cite, lui faire des trucs de grand. Tout ça ne serait pas arrivé. Cyril n'aurait pas été viré après s'être pris en plus une rouste par le père de Corinne, qui, pas de bol, était gendarme, si les parents de Cyril l'avaient inscrit au temps périscolaire. Ce moment où, encadrés par des adultes, les enfants attendent, en pratiquant diverses activités ludo-éducatives, que le parent vienne le chercher à la sortie du travail. Le problème, on va le voir, c'est que les animateurs sont souvent mal payés, que leur recrutement est sujet à caution, que la qualité des activités proposées dépend fortement de la richesse de la commune, puisque c'est la commune qui finance le périscolaire. Ajoutez à tout ça que dernièrement, des scandales d'agressions physiques, parfois à caractère sexuel, ont éclaté à Paris, relayés dernièrement par nos confrères de complément d'enquête, et vous obtenez un sujet de débat inflammable. Les parents sont inquiets, ont-ils raison de l'être? Comment réformer le secteur du périscolaire? Faut-il le réformer? Autant de questions que ne s'étaient jamais posées les parents de Cyril, pour qui le temps périscolaire s'appelait donc l'école de la rue. C'est de ces années d'apprentissage à la rude, où il lui fallait chaque après-midi déjouer les pièges des pédocriminels qui l'attendaient à la sortie de l'école avec leurs longs impairs gris et leurs sacs de bonbons alléchants, qu'il s'est forgé une carapace.
Tu aimes les films sur les gladiateurs?
Non monsieur, j'aime le groupe U2, et en plus eux ils pratiquent pas la tarification dynamique. Vous connaissez le scandale de la tarification dynamique? Ah et voilà, un pédophile de bon.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Noël.
Et bonjour Yaël Amsalem Mingui.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Yaël, vous êtes sociologue chargée de recherche à l'Institut National de la Jeunesse et de l'Éducation Populaire, l'INJEP. Depuis quelques mois, des signalements se sont multipliés à l'encontre d'animateurs de temps périscolaire. Un numéro de complément d'enquête, je le disais, fin janvier, a fait l'effet d'un électrochoc pour les parents d'élèves. Vous sortez aujourd'hui une étude intitulée « Idées reçues sur l'animation jeunesse » aux éditions Le Cavalier Bleu, en collaboration avec l'INJEP. Un ouvrage que vous avez dirigé avec Hugo Bréant et Emmanuel Porte. Vous allez nous dire quelles sont justement ces idées reçues, à quoi servent ces temps périscolaires et comment mieux recruter leurs animateurs. Juste le temps de vous présenter mes fidèles complices, à commencer par celle qui n'aurait jamais pu devenir animatrice dans le périscolaire, car s'il y a une chose qu'elle déteste encore plus que les fromages à pâte molle et les masculinistes, c'est bien les enfants. Les rares fois où elle a dû s'occuper des gosses de ses amis l'espace de quelques heures, ça s'est toujours fini par...
Petit enculé de merde qui chiantera toute la journée.
Oh. Oui, Manon, calmez-vous, une accident. Manon Mariani, bonjour.
C'est faux, en plus, bonjour, j'adore les enfants.
C'est vrai.
Les enfants m'adorent. Ah, voilà.
Est-ce que l'inverse est vrai?
J'aime beaucoup les enfants de Cyril,
oui, par exemple. Et mes enfants aiment beaucoup Manon. Absolument.
C'est vrai, ça.
Oui, c'est
vrai.
Ça vous embouche un peu.
Mais quand,
ça,
te dire, à quel moment vous voyez?
Quand Cyril amène son enfant au bureau, voilà. Je joue avec lui.
Je vais vous emmener les miens, vous verrez, ils sont toniques. Dans votre pièce jointe aujourd'hui, Manon.
Je vous présente une association française, elle aide les jeunes en difficulté et leur apporte notamment des activités à faire durant ce temps périscolaire, souvent symbole de fortes inégalités.
Et vous, quel regard portez-vous sur le périscolaire? Peut-être n'aviez-vous pas eu vent de la polémique sur ces animateurs parisiens qui auraient violenté, parfois abusé de certains enfants. Pour être sûr que vous flippiez comme tout le monde, on a envoyé Quentin vous annoncer la nouvelle. Bonjour Quentin, lui.
Bonjour, c'est pas le plus facile.
Non, alors Quentin, les passants que vous avez croisés, ils avaient un regard, une opinion sur le périscolaire?
Pour certains parents, ils ont même été touchés de très près par le scandale. Comment réagir quand un autre parent vous appelle en disant que c'est urgent, en disant qu'il faut vérifier, qu'il faut demander à son enfant s'il a été touché? Vous entendrez des parents dans la rue que j'ai attrapés comme ça au micro d'Inter, c'est dans la prochaine demi-heure.
À 16h30 justement, comme ça sera l'heure du périscolaire, je vous proposerai une activité ludo-éducative de grande qualité, aussi appelée le quiz. Aujourd'hui vous allez adorer puisqu'il y aura un florilège de toutes les matières que vous adoriez à l'école, la grammaire, l'algèbre ou encore la géographie.
Oh, l'enfer.
Après 17h, restez avec nous, on zoomera sur l'actu de ce 12 février, et puis avec notre invitée, une magistrate, rassurez-vous Quentin, elle ne sait rien de votre dossier, on se posera la question, à l'heure de la montée des populismes, la justice française est-elle en danger? Mais d'abord, Yaël Amsalem Mingui, zoom donc sur le périscolaire. Si on a décidé de faire l'émission, c'est à cause de toutes ces affaires qu'on entend autour de ces fameux temps périscolaires, soudainement tout éclate. Est-ce que ça veut dire qu'on a longtemps ignoré ce que faisaient nos enfants en dehors du temps de l'école, au sens ignoré parce qu'on n'avait pas d'informations dessus, et aussi peut-être parce qu'on s'en est désintéressé?
Alors, je pense qu'il y a deux événements en même temps qui se jouent, et c'est ce que montre une partie des articles de l'ouvrage. C'est d'une part qu'on est dans une phase d'inacceptation sociale, collective, des violences en général. On est dans ce climat-là, des violences en général, des violences faites aux femmes et aux enfants en particulier. Et donc, c'est pas étonnant non plus que surviennent médiatiquement des affaires d'inacceptation, des violences qui, jusqu'au début des années 2000, et puis qui se sont accélérées dans l'inacceptation avec MeToo, mais en fait qui ont commencé bien avant MeToo, on voit l'augmentation des dénonciations et de la prise en compte des dénonciations de tous les événements de violence, quels qu'ils soient, verbaux, physiques, sexuels et tout ça. Donc c'est d'abord cet élément-là qui est à noter. Et donc, ce que montre l'article notamment de Paul Brumand, c'est bien ça, c'est que ça s'inscrit dans une phase aussi plus collective d'alerte et de dénonciation et de prise en compte, mais aussi de comptabilisation, d'enquête, de recherche.
Avant, on ne les faisait pas, tout simplement.
Et avant, on ne les faisait pas, voilà.
Alors que sur leur temps périscolaire, nos enfants confectionnent aujourd'hui des colliers de nouilles pour leur maman, lui, dans la fureur des années 80, il forçait des parcs-mètres pour aller s'acheter du Tang au mammouth de Fronto Combo. Tang qu'il sniffait ensuite en écoutant Iron Maiden sur son Walkman. Ça, c'était l'école de la vie, se souvient-il ému. Pas comme cette génération de mauviettes qu'on est en train de se préparer. Cyril Lacarrière, vous n'êtes pas seulement le rédacteur en chef émérite de cette émission. Chaque après-midi, vous nous racontez l'origine de notre mot du jour. Alors, le périscolaire, d'où ça sort.
Imaginez, il est 16h30, la sonnerie retentit pour des millions d'enfants, c'est direction l'étude ou le centre de loisirs en attendant que les parents finissent le travail. C'est ce qu'on appelle le périscolaire, ce temps un peu flou, qui n'est plus l'école mais pas encore la maison. Mais que faisaient les enfants avant, quand l'école était finie? Bon, au 19e, c'était simple, ils restaient dans la rue, l'école de la rue. Mais ça a créé la panique chez certains, alors l'église catholique a organisé des activités pour s'occuper des enfants le jeudi. Oui, juste le jeudi. Le but, simplement surveiller les gamins et simplement le jeudi.
Et puis, il y a un tournant en 36, évidemment.
36, naissance du Front Populaire. Grâce à Léo Lagrange, il ne s'agit plus juste de garder les enfants, mais de les éduquer par le jeu. C'est la naissance de l'éducation populaire. Changement qui se symbolise avec une nouvelle notion, on passe de la garderie au centre de loisirs. Quant au terme périscolaire, il n'apparaît que dans les années 80-90, c'est le moment où les femmes travaillent de plus en plus, où les journées s'allongent et où l'État doit organiser ce temps de manière encadrée. Ce ne sont plus des bénévoles ou des curés, mais des animateurs diplômés qui gèrent ce troisième temps de leur journée. Alors d'où ça sort le périscolaire? Eh bien de l'idée de transformer des heures creuses en heures pleines, et c'est le début de notre histoire.
Merci Cyril, Yael, Amsalem Mingui, on va peut-être reprendre les choses au départ. Pour tout le monde, même j'allais dire pour ceux qui ne connaissent pas le périscolaire, mais même quand on est parent, on connaît finalement pas si bien que ça le périscolaire. C'est quoi le temps périscolaire? Qu'est-ce qu'on y fait? Est-ce que c'est homogène dans toutes les écoles ou pas du tout?
Alors le périscolaire, déjà, c'est ce qu'il y a dans la journée d'un enfant qui ne fait pas partie de l'école. Et l'extrascolaire, c'est ce qui se passe pendant les vacances et l'encadrement des vacances des enfants. Le périscolaire, il ne s'organise pas de la même manière selon les communes. Il y a du périscolaire parfois qui commence à 7h du matin, qui s'arrête à 8h30, et puis ensuite ils ont classe. Ensuite, il y a la pause méridienne, donc la pause cantine. La cantine fait partie du périscolaire. Ensuite, ils ont classe et elles ont classe. Et puis ensuite, il y a effectivement 4h30, 15h30, ça va dépendre de l'organisation des journées des enfants. Le périscolaire jusqu'à la fin de la journée, qui peut s'arrêter à 18h, à 18h30, voire à 19h,
donc,
selon les communes.
Qui est dans l'enceinte de l'école, le périscolaire.
Qui est tout le temps, la plupart du temps, dans l'enceinte de l'école, alors que l'extrascolaire peut se passer dans l'école ou en dehors des écoles, dans des espaces d'animation.
Donc on a une équipe qui prend le relais sur les professeurs d'école?
Oui, c'est pas les mêmes.
Alors voilà, c'est ça. Il y a, en fait, historiquement, les enseignants étaient aussi des animateurs. Enfin voilà, on voyait une bascule, notamment avec le côté militant des enseignants, et puis le côté éducatif et tout ça. Et là, maintenant, on a des animatrices et des animateurs, essentiellement des animatrices, qui vont s'occuper des enfants en dehors des heures de classe, finalement. Elles vont prendre en charge ce temps, elles vont accompagner les enfants. Au début, on appelait ça des gardiens, après on a appelé ça des moniteurs et des monitrices, et maintenant on est sur des animateurs et des animatrices. Et donc tous ces temps, c'est des temps qui ne sont pas des temps scolaires et pour autant sur lesquels on envisage, on investit, on projette de l'éducation, des attentes pédagogiques, des attentes de formation, des attentes d'activité, sans pour autant toujours en donner les moyens.
Mais donc oui, parce que je le disais, le temps périscolaire, il dépend des communes. C'est pas l'État qui décide de ça. Donc en fait, en fonction des communes plus ou moins riches, il peut y avoir différentes activités périscolaires qui sont proposées, qui sont pas les mêmes. En fait, le service n'est pas le même, j'ai envie de dire. Si on parle
le service n'est pas forcément le même, mais c'est pas tant quand on écoute les enfants. Finalement, c'est pas tant le type d'activité qu'ils vont faire que comment l'activité elle est menée. Qu'est-ce qu'on va leur proposer? Et finalement, c'est ce que montre une partie des collègues dans leurs travaux, c'est justement toutes ces activités, dans quelle histoire on les emmène. Et finalement, c'est moins le côté sensationnel d'aller dans un parc d'attractions qui va avec la question de la marchandisation du secteur de l'animation que vraiment avoir fait un truc de fou, même au sein de son école qui est hors de l'école, mais qui est dans les bâtiments.
Tout repose donc sur les gens, en fait, sur l'humain, sur les animateurs.
Beaucoup repose sur l'humain.
On va y revenir.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël, sur France Inter.
Que se passe-t-il vraiment pour votre enfant durant le temps périscolaire? On est cet après-midi avec la sociologue Yaël Amsalem-Mingui qui a co-dirigé l'ouvrage « Idées reçues sur l'animation jeunesse » qui paraît aujourd'hui aux éditions Le Cavalier Bleu. Yaël, vous dites qu'historiquement, les instituteurs étaient très investis dans l'éducation populaire, mais un retrait s'est opéré dans les années 80. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, en fait, historiquement, oui, les enseignants, ils ont été et d'ailleurs déchargés en partie d'une partie de leurs activités d'enseignement pour investir après la Libération le champ du périscolaire, de l'animation et en fait plus largement de l'éducation populaire. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a vu se monter des grandes associations, enfin vraiment le secteur associatif a été dynamisé par cette mise en disponibilité des enseignants et des enseignantes. Et puis, s'est posée la question de la dissociation de l'animation et de l'école, qui est une question qui traverse le temps au final, et avec une spécialisation finalement, et une distinction et une forme parfois de hiérarchisation entre des temps qui sont les temps de l'enfant dans la journée, mais qui seraient des temps légitimes d'apprentissage, l'école, et des temps sur lesquels est-ce qu'on les garderait ou est-ce qu'on leur apprendrait des choses, sont mis en question.
Oui, alors tout ça c'est en question. Comme vous dites, il n'y a pas une ligne de conduite qui est fixée au périscolaire en France. On dit le périscolaire, ça va être ça, les enfants à 16h30, ils vont faire plutôt telle ou telle activité, en laissant évidemment une marge de manœuvre énorme, mais il n'y a aucune ligne directrice.
Alors si, il y a quand même beaucoup de lignes directrices. Alors ça, on le sent déjà dans les formations, qu'elles soient professionnalisantes ou qu'elles soient dans l'animation volontaire, qu'on ait un BAFA ou un brevet de jeunesse et sport sur l'animation. On va voir qu'il y a des attentes. Il y a des attentes pédagogiques, il y a des attentes de sécurité, il y a des attentes d'hygiène, il y a des attentes d'animation, de prise de groupe, de gestion de groupe, de gestion de crise et tout ça. Et donc tout ça, ça fait partie... il y a un cahier des charges, en fait, quelque part.
On peut être animateur sans un BAFA ou un brevet, ce que vous disiez tout à l'heure.
Alors, on peut être dans l'animation sans avoir un BAFA et sans avoir un diplôme. Mais c'est des proportions petites dans les équipes d'animation puisque l'équipe doit être dominée par des personnes diplômées.
Pardon, allez-y Manon.
Non mais aujourd'hui face aux affaires qui éclatent dans ce milieu, on se pose quand même beaucoup de questions sur le niveau de recrutement. Comment ils sont recrutés ces animateurs qui viennent en dehors des heures de classe? Parce qu'un BAFA, ok, mais ça suffit pas forcément, je suppose.
Alors, un BAFA, ça suffit pas forcément, et en même temps, c'est là où on va pouvoir recruter le plus d'étudiantes et d'étudiants.
C'est que des étudiants.
Non, c'est pas que des étudiants, mais on va voir que c'est là où il y a le plus de jeunes en fait qui vont arriver dans l'animation, qui vont en faire une partie de leur activité, mais qui ne se projettent pas forcément dans une carrière professionnelle. À l'inverse, dans des diplômes de jeunesse et sport, là, c'est des gens qui vont investir une carrière professionnelle, et donc c'est pas du tout le même type de formation, c'est pas les mêmes coûts de formation, mais c'est pas non plus les mêmes objectifs de formation, puisqu'il y a des personnes qui vont en faire une carrière et d'autres qui vont en faire une activité passagère. Du côté du recrutement, en fait, il y a quand même cette question-là. Le profil des animatrices et des animateurs, c'est d'abord des femmes, c'est 75% de femmes, c'est d'abord des jeunes, on a plus de la moitié des animatrices et des animateurs qui ont moins de 34 ans. Donc il y a un peu plus d'un quart qui a moins de 25 ans, contre 10% des salariés sinon. Et puis la majorité ont un diplôme inférieur ou égal au bac, parce que c'est lié au salaire et aux rémunérations.
Alors justement, le salaire, on peut parler salaire, voire à peu près...
On peut parler salaire.
On
peut parler salaire, la sociologie et les données statistiques, et notamment à partir de l'enquête emploi, elles montrent bien qu'on a 42% des animatrices et des animateurs qui sont en CDD, 11% sont en CDD sur des CDD de moins de 3 mois, 53% sont à temps partiel subi, et globalement, ils gagnent moins de 1 800 euros net par mois en équivalent temps plein. Or, ils sont sur du temps partiel. Et donc, ils gagnent vraiment pas beaucoup leur vie. Et donc, après, il y a toute cette question-là de quelle complémentarité salariale, comment on peut compenser ça avec une autre activité professionnelle pour gagner sa vie.
Mais comment ils sont recrutés? Qui les recrute? C'est les écoles qui mettent des petites annonces et on peut postuler. Oui, bonjour, j'ai mon BAFA, je veux travailler pour vous.
Alors, il y a deux systèmes, en gros. Soit c'est les communes et c'est organisé par les communes, soit c'est par les associations qui sont mandatées par les communes pour organiser le temps périscolaire. Donc, il y a vraiment deux chemins possibles. On peut être recruté par une commune, par les services ressources humaines d'une commune, ou par les services ressources humaines d'une association, le plus souvent d'éducation populaire, qui va, elle, organiser tout le périscolaire du matin, du midi et du soir. Et des vacances, souvent.
On parlait du recrutement de ces animateurs. Est-ce qu'il y a un manque d'animateurs aujourd'hui en France, dans le périscolaire ?
Alors, il y a une tension, ouais. Il y a une vraie tension sur l'emploi, en particulier sur le périscolaire par rapport à l'extrascolaire, c'est-à-dire qu'on a moins de difficultés à trouver des animatrices et des animateurs pendant les vacances, parce que c'est des journées complètes, parce que c'est des semaines complètes. Donc, en termes d'organisation, notamment pour les étudiantes ou les étudiants ou les jeunes, c'est plus facile de baliser quelques jours d'un coup, plutôt que d'avoir un morcellement avec du temps de travail fractionné qui ne permet pas le double emploi, en fait.
Lui, il n'a jamais connu le temps périscolaire. Chez les lui, un enfant devait certes étudier, mais il devait surtout être productif. C'est pourquoi, dès le CM1, à 16h30, Quentin filait chez JTEM, où il vendait des téléviseurs à tube cathodique à des clients qui se laissaient attendrir par le jeune âge du vendeur, ce qui permettait à Quentin de conclure 3 ventes par après-midi. C'est là qu'il a forgé son fameux dicton qui le suivra dans toute sa carrière de commercial.
Les gens sont cons, faut en profiter.
Alors Quentin, les gens que vous adorez, oui. Quel regard porte-t-il sur le périscolaire ?
C'était hier, mercredi, jour des enfants et des parents que j'ai rencontrés non loin d'un parc parisien où il y a, vous savez, cet espace de jeu avec un sol relativement mou qui donne toujours une sensation très étrange quand on marche dessus.
Heureusement qu'il est mou.
Oui, utile pour amortir d'éventuelles chutes des bambins. C'est ici, sur ce sol, que je rencontre cette maman.
Bonjour.
Quel est votre prénom ?
Julie.
Julie, vous êtes avec qui ?
Avec Solène et Maëlle.
Bonjour. Bonjour.
Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ?
Je m'occupe des petites, là, on va aller manger une glace.
Quelle bonne idée. Je lui demande de découvrir et surtout de lire le mot de Zoom Zoom Zen aujourd'hui.
Périscolaire. Et je dois vous dire ce à quoi ça me fait penser ? L'actualité, laquelle ? Le périscolaire dans le public, dans le quartier ? Peur, inquiétude, culpabilité en tant que mère d'aller travailler le matin et de devoir laisser ses enfants dans le périscolaire après l'école.
Je lui demande justement comment elle sait ce qu'il s'y passe, comment elle peut contrôler un moment où elle n'est pas là.
Oui, alors moi j'ai la chance d'avoir des filles qui parlent beaucoup. Donc dans l'ensemble, je sais ce qui se passe, je sais avec qui elles jouent et elles sont ensemble au périscolaire. Donc si j'ai pas les échos par l'une, je les ai par l'autre et elles veillent l'une sur l'autre. Pour l'instant, elles sont ensemble en maternelle.
C'est quoi la garderie ?
On fait des jeux dans la cour, on fait du foot et le facteur n'est pas passé.
Attends, mais raconte-moi toi.
Aussi, on fait des dessins.
Eh oui, ça fait partie de ce qu'on fait aussi sur ces temps périscolaires. Ce papa maintenant, veste de pluie verte, cheveux poivre et sel.
Périscolaire, ouais.
Ça vous parle ?
Oui, mais il va pas trop au périscolaire. Ils ont la chance de pas avoir des parents qui bossent de 8h du matin à 20h le soir alternant.
Oui, mais pas trop, ça veut dire un peu quand même. Je lui demande malgré tout comment se passent ces temps où ses enfants y vont et quel regard ils portent sur cette actualité.
Nous, dans l'école, ça se passe super bien, donc je suis pas plus parano ni plus inquiet que ça, mais effectivement, dans le 11e, il s'est passé plein de trucs juste à côté. J'avais vu qu'il y avait une journaliste qui s'était fait engager en banlieue il y a pas longtemps, en une demi-heure, sans aucun truc. Même sans avoir signé de contrat, elle est allée bosser direct. C'était une journaliste qui avait fait ça, donc effectivement, il n'y a aucun contrôle, mais bon, comme dans plein de trucs.
Ma dernière rencontre, c'est Noélie, accompagnée de sa fille Frida, qui a 6 ans.
Périscolaire. On peut étendre le débat, mais quand on voit l'actualité et ce que l'espèce humaine peut mettre en place pour atteindre ses objectifs, et quand on voit les déviances et les statistiques, c'est quoi ? C'est un enfant sur 30 qui est touché par, je vais pas dire les mots à côté de ma petite fille, mais par tout ça. Et du coup, on se renseigne. Mais quand j'ai eu cette actualité, elle était au centre de loisirs. Sur ces vacances-là, c'était très exceptionnel. Et c'était un centre de loisirs qui était touché, justement.
Ouais, le centre était dans la liste et je comprends qu'elle s'est inquiétée. Comment ça s'est passé ?
C'est un autre parent qui m'a prévenu. Il m'a tout de suite dit « rappelle-moi ». Moi, j'ai vu avec ma fille « ça va, regarde-toi ». Donc évidemment, on est très, très inquiets. Et on n'a pas envie que la réponse... Est-ce que tu as quelque chose à me dire ? Est-ce que tu as été seule avec un adulte ? Est-ce qu'un adulte... t'as demandé quelque chose qui te paraissait différent d'habitude. C'est plus des questions comme ça. Et après, elle, je vais pas dire qu'elle est entraînée, mais elle sait que j'ai une inquiétude là-dessus. Donc du coup, elle comprend et elle me dit « Ah non, vraiment, rien du tout, maman, tout va bien, voilà. »
Je lui demande comment on parle de ça, comment on aborde ces sujets avec un enfant de 6 ans.
Il y a un certain âge où ils sont capables d'apprendre les mots de l'anatomie, par exemple. Et ça, c'est super important parce que quand un potentiel agresseur voit qu'un enfant déjà connaît des choses, il se sent plus menacé. Pas tenir les secrets, ça c'est aussi important depuis qu'elle est petite. On ne dit pas C'est un secret entre nous.
Pas de culture du secret. Je discute aussi avec elle du moment où l'on choisit d'en parler. Un enfant, ça ne parle pas toujours à la demande. Elle me dit que c'est toujours facile de donner des conseils en tant que parent, mais elle me confie sur son fonctionnement à elle.
Mais toujours se rendre disponible pour que, quand un enfant nous dit quelque chose, on l'accueille et il se sentira totalement libre et disponible de venir nous parler s'il sent qu'il y a un adulte qui s'est mal conduit avec lui.
Et c'est pas forcément le moment où on aura choisi d'en parler avec lui qui voudra en parler, c'est ça ?
Oui, alors, oui, exactement. Alors, il y a aussi, par exemple, le soir, quand on les couche, on lit une histoire. Et c'est un bon moment où ils sont très ouverts pour parler. C'est la disponibilité mentale, elle est à ce moment-là. Ça m'est arrivé aussi de passer par la métaphore du loup, aussi, par exemple, via les contes. Mais ça, c'est quand elle était plus petite.
Entre l'école et la maison, il y a désormais un temps flou, mal encadré, où l'on confie ses enfants sans vraiment savoir à qui. Un entre-deux éducatif devenu un angle mort de la société, un sas du quotidien, où en tant que parent, on croit ses enfants en sécurité, et où parfois le risque s'invite sans prévenir.
Yael Amsalem Mengi, vous avez entendu ce micro-trottoir, et les gens tout de suite, enfin je ne sais pas si c'est complément d'enquête, on en parle plus ces derniers temps, ces affaires qui ont surgi à Paris, le périscolaire fait peur.
Alors, je pense qu'il y a un effet de contexte et d'aller tendre un micro-trottoir à Paris dans un contexte très particulier médiatique. Je pense que vous seriez juste la veille des vacances scolaires d'été, vous auriez des inquiétudes sur comment je vais faire pour avoir des nouvelles alors qu'il ou elle part en colonie de vacances. Enfin, voilà, confier ses enfants quand on est parent, enfin, c'est toujours il y a une des personnes qui dit la culpabilité, notamment des mères, qui posent la question en fait de qui a les moyens de confier ses enfants, qui confie ses enfants et pourquoi on confie ses enfants. Et donc, ce qu'on va voir typiquement, c'est que les milieux les plus favorisés vont confier leurs enfants, y compris au périscolaire, mais en fait, on va voir que les enfants ont surtout beaucoup d'activités annexes à l'école et qu'en fait, c'est les enfants qui ont les agendas les plus chargés qui sont aussi qui vont réussir à performer les résultats scolaires. À l'inverse, les enfants des classes populaires, avec une partie des familles des classes populaires qui vont, elles, plutôt garder leurs enfants dans les foyers, pas pour souci économique, mais aussi parce que les mamans, elles travaillent moins ou pas aux mêmes horaires, elles s'organisent. C'est aussi des enfants qui vont être moins en connexion avec toutes les formes d'activités qui peuvent être proposées sur une journée scolaire.
Vous parliez des mères. Les mères se sentent plus coupables, sont plus concernées par cette culpabilité ?
Alors, je sais pas, il n'y a pas de données de recherche sur les mères plus que les pères, mais en tout cas, la charge éducative et la question éducative et l'organisation d'une journée d'un enfant, elle est d'abord gérée par les mères. Et ça, toutes les enquêtes, notamment l'enquête ELF, le montre bien et l'objectif bien. Et puis, peut-être, juste pour terminer, en fait, dans la formation BAFA, il y a depuis 2024 et en fait depuis 2023 et puis en amont par les associations, mais maintenant c'est formalisé dans les attendus de la formation BAFA, tout un volet VSS, donc violence sexuelle et sexiste, prévention, accompagnement, gestion, signalement, organisation. Donc il faut aussi laisser le temps que les formations aient des effets sur tous les animatrices et les animateurs qui entrent en poste. Malgré tout, il faut se rappeler, et je pense que c'est ça qui est important, c'est que l'essentiel des violences sexuelles qui sont faites sur les enfants sont d'abord dans le cadre familial.
Oui, Noélie nous dit de mettre les bons mots, d'ailleurs. Elle parle de la métaphore du loup. Vous êtes d'accord avec ça ? Il faut nommer les choses ou pas en fonction de l'âge ?
Alors, la question du loup, je ne sais pas. Enfin, d'un point de vue sociologique, je ne sais pas. Par contre, le programme d'éducation à la sexualité qui est mis en place dans le milieu scolaire, mais dans lequel il y a déjà un guide à destination des animatrices et des animateurs qui a été mis en place par le ministère de la Jeunesse pour accompagner justement comment on fait avec la sexualité des enfants et des jeunes ces questions-là, elle a plutôt tendance à préconiser le fait de mettre les mots, de nommer les choses, de nommer les parties du corps scientifiquement. De ne pas être dans les affects, mais d'accompagner pour qu'on soit bien sûr qu'on parle de la même chose quand on nomme les choses. Et c'est exactement ce qui est écrit dans le programme d'éducation à la sexualité de l'éducation nationale qui prend de 3 ans à 18 ans l'ensemble des élèves qui relèvent de l'éducation nationale.
France Inter, Zoom Zoom Zoom, Mathieu Noël.
Du temps de Cyril, il n'y avait pas la méthode Montessori. On ne cherchait pas à comprendre la psyché de l'enfant pour lui épargner les traumatismes futurs. Non, et s'il ne connaissait pas ses déclinaisons latines, le maître le foutait au coin avec un bonnet d'âne sous les rires de ses camarades qui le pointaient du doigt en criant « Quentin, moins que rien, Quentin, gros crétin !» Aujourd'hui, heureusement, dans certains établissements bien tenus comme le nôtre, rien n'a changé. Jouons au Zoom Zoom Test.
Il est content, là.
Un quiz spécial.
Nous humilier, là, ça marche.
Un quiz spécial soutien scolaire aujourd'hui, florilège de questions basiques sur la grammaire, l'orthographe, l'algèbre, la géométrie qui vont vous permettre de briller à coup sûr. lecture et comme je ne suis pas un monstre, je vous épargne l'histoire géo. On commence en douceur avec votre discipline favorite, celle qui a permis à Manon d'établir le théorème de Marianoche, à savoir que consommer dans le verre magique de Lolo Côté 18 doses de Porto équivalent à une seule dose de Porto servie dans un verre classique. L'algèbre. Ma question est la suivante.
J'étais vraiment nul en maths.
Ma question est la suivante. Quel est le résultat de l'opération 2 plus 3 fois 4 2 plus 3 fois 4 5, en 5... respectant les priorités opératoires. Ça nous donne 20.
Il y a des parenthèses ou pas ?
Ça nous donne 20. Non, il n'y a pas de...
Ok.
14 ou 11 ?
20. 20.
Quentin,
5 fois 4, 20. Mais si, bah
oui,
c'est ça.
3 fois 4. Mais la multiple, non, c'est l'addition en premier.
2 plus 3 ah non, fois 4.
Eh oui.
5 fois 4. Non, mais 20, c'est 20, 20, 20 Mathieu. Ah. Non, mais c'est bon, j'ai...
Quentin, vous dites quoi ?
Ah.
Vous êtes, vous n'avez pas votre brevet. La réponse était 14. Effectivement, réponse B à la base. Pour vous expliquer le calcul, Cyril devait faire son entrée dans le studio avec un grand tableau Velleda. Et puis le souvenir de son terrible blocage du dos en fin de saison 2. Quand il avait voulu porter le tableau en hurlant en route vers la saison 3, l'en a dissuadé. L'explication sera donc purement verbale. Dans un calcul, la multiplication a tout simplement la priorité sur l'addition. Donc, il faut commencer comme ça quand vous faites le calcul. Attention, préparez-vous.
Vous m'avez pas laissé le temps de raisonner.
Bah, écoutez, on n'a pas 3 heures non plus.
J'ai pas compris,
préparez-vous.
Mais okay.
Je vous expliquerai en antenne.
Prime sur l'addition.
Préparez-vous à retremper vos plumes dans l'encrier du gai savoir. On attaque le cours de grammaire. Je sais, Quentin, ça vous rappelle de cruels souvenirs quand au collège, vous entriez dans la classe de français sous les huments de vos camarades. Mais voilà, c'est l'heure de la mini-dictée. Avec cette question.
Vous dire
dans la
huée hurlée.
Oui, oui, oui.
Dictée, attendez,
dans
j'écris.
La phrase...
sinon,
non, mais vous allez avec un mot.
Ah,
dans la phrase, je vous donne la phrase, mais c'est un mot que je vais vous interroger. Dans la phrase hautement d'actualité, Cyril est ballonné car la côte de bœuf de 920 grammes qu'il a mangé ce matin au petit déjeuner lui est restée sur l'estomac.
C'est hyper long.
Comment
ouais.
vous écrivez le vin vrai. Le vin de 920 grammes. Au singulier, car vin reste au singulier dans toutes circonstances. Avec un S, car le chiffre est multiplié et aucun autre chiffre ne le suit. Ou avec un T, parce que le rouge sur le blanc, tout fout le camp, et blanc sur rouge, rien ne bouge.
Pardon, non mais si,
il
c'est
Il est pas
ça.
Invariable, le vin, donc B. Les vins.
C'est une bonne réponse de Quentin.
Ah
vous n'étiez pas bonne non plus en français, Manon, visiblement.
Si, j'étais hyper forte en plus.
Il faut mettre un S à vin dans la phrase, une entrecôte à 920 grammes. Écoutez la règle rappelée par le projet Voltaire. Vin prend la marque du pluriel S quand il est multiplié. Mais il la perd dès qu'il est suivi d'un autre adjectif numéral. Par exemple, 1000. On écrit donc Cyril a mangé une côte de bœuf de 920 grammes avec un S à vin. Le blouson, en revanche, on écrit le blouson Valentino Rossi de Quentin est soldé à 99€ sur Vinted. 20.
Le chiffre
100 GT, S, ouais. Exactement. Et maintenant, pour le plaisir, camembert géométrie.
Comme si...
Une discipline que vous maîtrisez sans
c'est
le savoir, Manon.
C'est Herbert Léonard.
Une discipline que vous maîtrisez sans le savoir, Manon, puisque la symétrie est le secret de votre légendaire Ray.
Ça, c'est vrai.
Dans ce cours de géométrie niveau 5e, vous devrez donc briller.
Ouais.
Vous vous souvenez bien sûr qu'un angle aigu est un angle inférieur à l'angle droit, c'est-à-dire un angle compris entre 0 et 90 degrés, n'est-ce pas ? J'imagine que ça veut dire oui. Mais alors, quel est l'antonyme de l'angle aigu, c'est-à-dire un angle compris entre 90 et 180 degrés ?
Moi, je
Est-ce qu'on parle d'un angle obtus, comme Pierre Courade ? Un angle grave, comme votre niveau en géométrie ? Ou un angle plat, comme l'encéphalogramme de Cyril après un mâchon ?
Ah ! Moi, j'avais angle obtus dans
B,
ma tête.
B.
Mais j'ai un doute sur la B aussi.
Bah non.
Non, c'est obtus,
vous
on est d'accord.
Vous refaites votre retard, c'est une bonne réponse, la réponse
quand
A.
Quand même.
Et oui, c'est
niveau
fou, 3e, Quentin,
quoi.
C'est fou d'être aussi nul et d'avoir quand même décroché le brevet.
J'ai séché tous mes cours de maths de 4e et de 3e.
Tout s'explique. Mmh. Je ne peux pas me résoudre au fait que vous ayez tout oublié de vos années d'études. Deuxième question géométrie. Attention, on va parler d'une figure géométrique que Manon connaît bien puisqu'elle a intégré la 7e loge maçonnique de Paris-Est. Le triangle. Elle fait tout le temps ce geste à nos invités pour voir s'ils en sont. Manon, Quentin,
c'est vrai, c'est vrai.
La question est simple. Quelle est la somme des angles à l'intérieur d'un triangle, qu'il soit rectangle, isocèle ou équilatéral, peu importe. Est-ce 360 degrés, 90 degrés ou 180 degrés, la somme des angles.
C'est 180.
J'ai pas écouté la question, Joseph.
La somme des angles d'un triangle, Quentin, est-ce que ça fait 360 degrés, 90 degrés ou 180 degrés ?
Ça dépend du triangle. Oh là
là. Ça ne dépend absolument pas du triangle, Quentin.
180,
c'est,
ouais. Je l'ai dit,
c'est
je l'ai
une
dit.
Bonne réponse, Manon, vous êtes la reine de la géométrie.
Ouais, ouais,
ça,
calme,
c'est une info vraiment de la
journée. On me dit non dans l'oreille.
Moi qui pensais que tout le monde savait ça, ben non. Pas mes chroniqueurs. Je vous le donne, une ultime chance de laver votre honneur.
C'est bien ça,
largement souillé par ce quiz, ça ne vous fera pas de points supplémentaires. On revient au cours de français avec une question plus dans vos cordes, Quentin.
C'est la question co. C'est la question I.
Presque.
Mais c'est la musique, c'est la fin.
Comment écrit-on...
Il coupe tout.
Oui, oui, il est pressé. Comment écrit-on le pluriel d'un va-et-vient ? Des va-et-vient, A, T à la fin, A de
attends,
S. Des va-et-vient...
Non, répète.
Non.
A,
on y va.
A,
B,
des va-et-vient, A, T, des va-et-vient, A, S, I, E, N, T, ou des va-et-vient, V-A-S et V-I-E-N-T-S.
C'est,
je réalise en le disant que ce jeu est vraiment parfait pour la radio.
C'est l'enfer.
C'est un jeu parfait pour radiophonique.
C'est bien. B, du coup, je vais dire B.
C'est une bonne réponse de Quentin. Une bonne réponse de Quentin.
On peut avoir le.
Ah non, pardon, c'était la réponse A. C'est nul, Quentin. C'était la réponse
A. Vous êtes pas clair.
Écoutez, je viens de trouver, je pense, un nouveau concept de jeu radiophonique.
Non, mais là, c'est
vraiment parfaitement adapté à la radio. C'est une victoire de qui? C'est une victoire de Manon,
ah ouais,
grâce
à
la géométrie, Manon.
Ouais.
Vous êtes sauvé. Quentin, vous êtes vraiment le bonnet d'âne de cette place.
Oui,
c'est grâce à Marais. Tout
oui.
Voilà.
Vu comment ça a été...
Dit comme ça.
Vu comment ça a été animé.
Que se passe-t-il vraiment? Attention, Quentin, de ne pas démarrer le quiz. Il n'y en aura pas demain.
Je ne suis pas là.
Mais lundi,
je gagnerai le quiz.
Lundi, en revanche, vous démarrez avec 10 points de pénalité pour cette remarque absolument désobligeante.
C'est bien, je commence bien.
Que se passe-t-il vraiment quand vos enfants sont au périscolaire? La sociologue à l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, Yael Amsalem Mingui, est avec nous pour zoomer ensemble sur cette zone de flou dans l'emploi du temps des écoliers français. Yael, dans le livre que vous nous présentez aujourd'hui, Idées reçues sur l'animation jeunesse, il y a un sous-chapitre intitulé « Le périscolaire, c'est de la garderie ». C'est évidemment ironique. Vous estimez que l'animation périscolaire a été lentement délaissée des politiques publiques. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, c'est pas tant qu'on estime ou on n'estime pas, c'est ce qu'on objectif
c'est le fait, les faits.
Par les données. Alors, c'est vrai et faux en même temps. En fait, ce qu'on voit, c'est que c'est au cœur des politiques de jeunesse, l'animation, et à tous les échelons territoriaux. C'est-à-dire que les communes, elles sont engagées dans la gestion du périscolaire, mais aussi les départements par le cofinancement, par les caisses d'allocation familiale pour les familles, mais aussi les régions parce qu'elles sont en charge de la formation, et puis enfin l'État qui organise tout ça, mais aussi organise les formes de contrôle, mais aussi toute la diplomation autour de l'animation. Donc en fait, l'animation, elle est complètement au cœur des politiques de jeunesse et au cœur des politiques locales jusqu'au niveau national.
Elle est au cœur, mais est-ce qu'elle a les moyens?
Alors, est-ce qu'elle a les moyens? Elle a une partie des moyens. Forcément, elle manque de moyens, comme une grosse partie du champ du travail social, du travail éducatif. Mais malgré tout, et pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure sur qu'est-ce que font les enfants, les enfants, ils font aussi avec peu, puisqu'en fait, leur objectif, c'est de s'amuser. Et donc, les jeux ne sont pas forcément tous coûteux, à raison de pouvoir développer des jeux et d'avoir les idées pour les emmener dans des chemins de traversée.
Bon, on l'entendait d'ailleurs dans le micro-trottoir, le facteur n'est pas passé, les dessins, tout ça ne demande pas non plus beaucoup d'organisation, mais de la surveillance.
Alors, c'est même au-delà de la surveillance, c'est-à-dire que c'est pas que le facteur n'est pas passé, là c'est à l'échelle d'un enfant, mais en fait quand on va un peu explorer qu'est-ce qu'ils et elles font, c'est souvent au-delà du juste facteur n'est pas passé, soit on y met un univers, enfin voilà, il y a une plongée dans le jeu, et en même temps, ce que les enfants apprécient sur ce temps périscolaire, depuis les années 80, c'est ce qu'ils et elles racontent, c'est le fait de pouvoir décider des occupations, alors qu'à l'école, on n'a pas le choix de ce qu'on fait. Oui, là, ils peuvent choisir, se mettre sur des groupes, apprendre à gérer un groupe, parce que c'est pas facile. C'est beaucoup de groupes, le périscolaire, mais la classe aussi, c'est beaucoup de groupes. Ils sont de 7h du matin, voire de 8h30 du matin à 18h, 19h, en groupe collectivement. Donc, c'est apprendre à faire tout ça. Et puis, donc choisir ses activités, choisir ses amis, jouer avec ses amis, et plus avec le groupe avec lequel on doit faire tel ou tel exercice, parce que l'enseignant ou l'enseignante a dit que c'était avec tel groupe qu'il fallait faire tel exercice, et puis s'amuser et trouver des jeux.
Vous dites quand même dans votre livre que les enseignants reprochent aux animateurs de mal parler aux enfants. Est-ce que c'est un reproche fondé? Comment ça se traduit?
Alors ça, c'est justement, on l'a mis en titre d'idées reçues. Hein. Ouais. Est-ce que finalement les animateurs parleraient mal et qu'est-ce qu'on reproche en fait aux animateurs sur leur comportement ou... Enfin voilà, dans toutes ces idées reçues-là qui ne sont pas complètement... Enfin, à chaque fois, elles sont discutables et discutées. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que s'oppose une éducation légitime qui est celle de l'éducation nationale et après de la culture, souvent de la culture populaire. Est-ce que écouter tel ou tel artiste sur le temps périscolaire, c'est écouter de la musique légitime? Pas forcément. Et en même temps, c'est la culture populaire qui va créer le groupe, qui va créer l'unité, mais qui aussi produit une génération parce qu'ils ou elles ont toutes chanté la même chanson en même temps, et c'est là où on voit tous les jingles et tout ça, qui évoquent à certaines générations un moment où ils ou elles ont été en colonie de vacances, au centre de loisirs, chanter tout ça ensemble. Et donc c'est ça aussi qui fait la fédération d'une génération, puisqu'on a plus de la moitié d'une génération qui a fréquenté un accueil de loisirs.
Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion plus globale à avoir sur le temps des parents? La question, elle est, est-ce qu'on bosse pas trop? Est-ce qu'il nous faudrait plus de temps et peut-être moins de périscolaires et plus de temps avec ses enfants?
Alors, je sais pas, on n'a pas travaillé sur le temps des parents. Hein. Enfin, vraiment, l'ouvrage, il est à la fois sur l'animation, qu'est-ce qui s'y passe, qu'est-ce qui s'y joue, et puis qu'est-ce qu'en attendent les enfants. Ce qu'on voit, en tout cas, c'est que les enfants, ils sont sur des temps complètement enchâssés entre l'école et les activités périscolaires. Et en fait, on voit qu'on a, on est moins dans l'incapacité à jouer des enfants actuellement que dans l'impossibilité de pouvoir le faire avec des journées extrêmement remplies.
Un dernier mot peut-être, parce qu'effectivement on a braqué le projecteur sur les problèmes qu'il pouvait y avoir avec certains animateurs qui présentent une minorité, j'imagine, dans le périscolaire, évidemment, en France. Il faut dire aussi que dans l'autre sens, il y a des animateurs qui dénoncent, qui repèrent des problèmes chez les enfants qui peuvent être à la maison et qui voilà, ils voient des choses, ça peut être aussi utile pour ça.
Tout à fait, une grosse partie des violences intrafamiliales sont repérées par le périscolaire, une partie des violences qui se passent dans le contexte scolaire sont aussi dans le temps périscolaire, parce qu'en fait, on voit les enfants sur un autre temps. Et puis enfin, c'est ce que raconte, enfin voilà, c'est ce qu'on raconte dans les recherches, mais c'est les animatrices et les animateurs qui font la transmission de la journée avec les parents, notamment quand ils sont petits, hein, puisque les enseignantes et les enseignants sont plus là. En tout cas, ils sont en train de bosser sur d'autres choses. Mais, et donc, c'est auprès des animatrices et des animateurs que va se passer toute la transmission de la journée. À bien manger, à jouer, à pas jouer, à pleurer, à s'est fait mal, machin, tout ça, sur le temps scolaire et périscolaire.
Vous écoutez France Inter, il est 16h46. L'heure d'ouvrir la pièce jointe de Manon Mariani.
Une association aujourd'hui, elle s'appelle Impact. Elle travaille auprès d'enfants et d'adolescents pris en charge par la protection de l'enfance qui sont souvent confrontés à des parcours de violence, de rupture familiale et de grande précarité. L'association a été créée par la médecin Céline Gréco, chef de service à l'hôpital Necker. Son constat est simple, protéger un enfant, ce n'est pas seulement le mettre à l'abri, c'est aussi lui garantir un accès réel à la santé, à l'école et à la culture. Et elle intervient notamment dans un entretemps dont on a parlé pendant cette émission, le temps périscolaire, ce moment entre la fin de l'école et le retour au domicile, un temps où certains enfants enchaînent activités sportives, musique, soutien scolaire, et où d'autres rentrent seuls dans des logements précaires, parfois sans adultes disponibles et sans espace pour travailler. Impact accompagne des enfants et adolescents suivis donc par la protection de l'enfance. En France, ils sont plus de 310 000 mineurs suivis par ces services. Beaucoup cumulent des retards scolaires, des troubles psychiques et des ruptures de parcours scolaire. Impact a fait le choix d'investir massivement dans le périscolaire. Concrètement, elle propose de l'aide aux devoirs, des tutorats, des ateliers culturels, du sport, des sorties. Autre pilier, l'accompagnement individuel. Chaque jeune peut bénéficier d'un référent qui coordonne ses besoins. Et pour les enfants les plus fragilisés, l'association travaille avec des professionnels de santé avec pour objectif de faciliter l'accès aux soins psychologiques et médicaux. Cette association est importante car on fait aujourd'hui face à un système de protection de l'enfance sous tension en France. Selon l'Observatoire national de la protection de l'enfance, les professionnels parlent d'un manque chronique de personnel, de délais d'attente très longs pour avoir accès aux soins et la difficulté d'assurer un accompagnement. Résultat, certains enfants changent plusieurs fois de lieu d'accueil, d'école, de référent. C'est dans ce contexte que des associations comme Impact se positionnent comme des forces complémentaires qu'il ne faut pas minimiser.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Il y a des jours où, c'est vrai, on a envie de le faire taire en lui faisant avaler son enceinte de vélo JBL. Pourtant, parmi 130 anecdotes inintéressantes et 200 jugements de valeur gratuits, il arrive que Pierre Courade ait raison sur un truc, comme on l'a réalisé cette semaine, en découvrant sur notre fil info cette nouvelle qui corrobore le commentaire courroucé qu'il avait laissé sur TripAdvisor. Cap Vert, la mystérieuse épidémie gastro-intestinale mortelle. 4 touristes sont décédés en 3 mois. Pierre, j'imagine que cette nouvelle ne vous a pas étonné. La nourriture aussi était douteuse là-bas.
C'est QFD. Non, mais il n'y a rien à sauver dans ce pays.
Hein. Oh
non, sincèrement. Non, on mange une fois, deux fois. Bon, ben, on a vite fait le tour. Hein. Après, bon, ces gens-là, désolé, mais...
Bon. Allez,
ces gens-là, mais ça va
désolé.
Pas.
Oui, là, mais désolé, ils sont... Non, oui, ils sont mal tombés. Ils sont mal tombés.
Ah, très mal tombés. Ils sont morts.
Oui, ils sont morts, oui.
Ils sont décédés, bon.
Oui, une pensée pour eux. Ce point Cap-Vert étant fait, merci de nous résumer ce qu'on s'est dit sur le périscolaire qui était notre thème du jour. Évidemment, en une minute chrono.
Le périscolaire que je déconseille aussi au Cap-Vert. C'est ce temps en dehors du temps scolaire. Et c'est un temps de plus en plus important compte tenu des rythmes scolaires. C'est aussi devenu un enjeu crucial pour les communes qui mettent en place ces activités, tant sur le plan du contenu que de l'encadrement. C'est la sociologue Yael Amselem-Mengi qui est venue nous en parler. Elle nous a expliqué que le temps périscolaire varie selon les communes. Il peut commencer avant les heures de classe, se poursuivre au moment de la pause cantine et se prolonger à la fin, de la fin des cours jusqu'à la fermeture des établissements. Tout se passe essentiellement au sein de l'école, mais comme ce sont les communes qui prennent en charge ce périscolaire, il peut y avoir des inégalités dans la qualité et le sens que l'on met dans ce temps. Le service pédagogique proposé n'est pas forcément le même. Ce sont aussi les communes qui recrutent les animateurs et surtout les animatrices. 75% des salariés du secteur sont des femmes. Ce sont aussi en majorité des jeunes, hein, plus de la moitié à moins de 34 ans. On a appris également qu'aucun diplôme n'est requis, même pas le BAFA. Il faut aussi savoir qu'un animateur est payé en moyenne 1 800 € net, équivalent en temps plein, sachant que la plupart travaillent en temps partiel. C'est pas cher payé pour s'occuper de nos enfants. Enfin, je suis peut-être obtus, mais il me semble qu'il y a eu une erreur hein, dans le quiz. On écrit bien 920 grammes sans S à 20. On rajoute un S à 20 quand il est multiple, quand il est multiplié, comme dans le chiffre 80. Ce n'est pas le cas avec 920.
Wow, j'avais raison.
Si une erreur a été commise par la personne responsable du quiz, elle en paiera les conséquences dès demain. Mon cher Pierre, j'irai vérifier, mais connaissant...
Comme quoi, c'était quand même très mal animé.
Connaissant
Pierre... Comme quoi, j'avais
Pierre,
raison, pardon. Vrai, voilà.
À mon avis, il a tort. Nous verrons ça, demain. Nous verrons ça demain. Pierre, merci quand même. Merci et aujourd'hui, nous retrouvons Marie White. Marie, vous êtes une tradwife et vous faites du périscolaire dans une école catholique.
Oui. Bonjour Mathieu. Alors, j'ai fait du flan. Vous voulez du flan? Oui. Non. Bon, alors, voilà. Alors, donc, le périscolaire, je veux bien en parler. Moi, je ne suis pas experte. Hein. Je suis plutôt experte en périnée parce que, rapport aux 4 enfants qui sont sortis de ma chair, de mon être, mon corps, ils ont tout. C'est merveilleux. Une souffrance, une joie. Vous voulez du flan, Cyril? Prenez du flan, j'ai fait du flan. Alors oui, je suis maman d'élèves à l'école de Sainte-Geneviève de la Gueuse à Levallois-Perret et nous y sommes très heureux.
Marie-Wade, votre école est au cœur d'un scandale. Votre curé est accusé d'exhibition sexuelle.
Ah, oulala, les nouvelles vont vite. Alors oui, donc je rappelle quand même qu'il y a la présomption d'innocence, hein, et que la vérité ne sort pas toujours de la bouche des enfants. Prenez exemple sur Quentin, lui, qui dit beaucoup d'âneries et pourtant il reste à l'antenne. En tout cas, ça a été un vrai choc pour nous, les mamans, parce que là, il n'y a pas plus investi que le père Anselme. Vraiment, il a tout investi. Il est toujours prêt à donner des cours du soir, à accompagner les enfants en sortie scolaire. Il a même installé des caméras au sein de l'école, dans la cour de récré, dans la cantine et même dans les douches. Ça prouve qu'il a vraiment envie de les protéger. Et voilà, prenez du flan, Cyril. Mais à Sainte-Geneviève, je veux dire, on prend ces histoires vraiment très, très au sérieux. Je peux vous dire que le père Anselme, là, il a tout de suite reçu un coup de fil le soir même du scandale.
De la direction.
Non, de CNews. Il lui proposait un poste de présentateur. Apparemment, ils n'en ont plus depuis 2 jours. Eh bien, vous savez quoi? Devinez quoi? Le père Anselme, il a refusé, car il voulait absolument partir en voyage au Cap d'Agde pour la confirmation des enfants. C'est lui qui a organisé ça, oui. À Sainte-Geneviève, vous savez, le bien-être des enfants, c'est essentiel. On les écoute, par exemple, l'autre jour, le petit Timothée, qui est venu nous voir après les cours en disant « Bon, je crois que je suis homosexuel. » Eh bien, on l'a félicité. On a dit « Bravo Timothée pour ton courage et maintenant on va te guérir de cette terrible maladie. » Oui, Timothée, l'église catholique n'autorise pas l'amour entre deux hommes. Enfin, sauf s'ils ont un écart de 30 ans. Prenez du flan, Cyril. Et si une élève, par exemple, vient nous voir en nous disant qu'elle a été victime de sexisme, c'est pareil, on ne reste pas là les bras croisés. Non, 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 moi je lui propose tout de suite, illico presto, de faire un atelier cuisine pour se changer les idées, puis on prépare une bonne quiche tout ensemble. C'est important d'être à l'écoute. Prenez du flan, Cyril. Moi, mon mari, d'ailleurs, il dit que c'est un plat qui me ressemble un petit peu. On n'a pas envie d'en goûter, et puis finalement, on est toujours déçus. Oh. On est très heureux ensemble. Alors, certains s'insurgent à propos de notre école. Il pense que la direction ne réagit pas, mais le père Anselme a été puni, et bien puni. Il a pris 10 ans.
De prison
Non, sur son visage. Oh, il est soucieux, ça fait peine à voir. Après tout ce qu'il a fait, c'est terrible. Il faut arrêter de stigmatiser ce saint homme. Dans le fond, de quoi est-il coupable? De trop aimer les enfants? Oui, peut-être. Donnez-moi du flan, vraiment. Je vais en prendre aussi un petit peu. Mathieu, d'ailleurs, il ne faut pas condamner tous les hommes qui ont eu un petit geste déplacé. Sinon, il faudrait mettre mon mari en prison. Je plaisante. Par contre, s'il veut faire l'amour, on fait l'amour. Oui, on est très heureux. Est-ce que, d'ailleurs, vous allez peut-être modifier ma voix pour la chronique, mettre un petit filtre robot rigolo? Mon mari ne sait pas que je suis là. Il déteste quand je parle avec d'autres hommes ou des humains. Non, très bien, non, mais c'est pas grave. De toute façon, je pense pas qu'il écoute ta radio. Il ne vous aime pas du tout. Hein. Il vous traite de sale gaucho à chaque fois. Oui, sale gaucho. Pourtant, ça fait 2 fois que je viens. Vous n'êtes pas si sale.
Lisa Perriot, merci quand même, vous aussi. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom. Merci Yael Amsalem Mingui de nous avoir expliqué ce qui se passe dans le périscolaire. Et pour en savoir plus, il y a évidemment votre livre intitulé « Idées reçues sur l'animation jeunesse ». C'est aux éditions Le Cavalier Bleu.
Zoom Zoom Zen.